France Culture.
Pas même une génération de l'achèvement du trop long conflit entamé en 14.
France Culture.
Hubert.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va. Je répète.
Le Book Club. Des petits marque-pages très chic, gris anthracite.
Oui.
Ah ouais.
Je peux te laisser après si...
Non, mais j'adore tous ces ustensiles de papeterie.
Ouais.
Dans la bibliothèque d'Hubert Collat.
J'ai une certaine obsession.
Ah, je suis très impressionnée parce que c'est pas n'importe quel format ce petit carnet.
Oui.
Marie Richeux. Allez, c'est parti. En créant le festival Actoral et le lieu Montevideo à Marseille il y a plus de 20 ans, vous adressiez un geste fort à l'écriture contemporaine, Hubert Collat, un geste de reconnaissance et de désir pour l'écriture comme acte. Même quand il n'y a pas de théâtre a priori, vous avez mis en espace ces dernières années des textes romanesques, des textes frisant le théorique, des textes dans le politique et le poétique sur des scènes de théâtre et vous leur avez ainsi donné une autre vie, comme on dit. Tout récemment, par exemple, le roman d'Hélène Lorrain, Partout le feu, était créé avec la comédienne Stéphanie Aflalo au festival Les Singuliers, au 104 à Paris. La possibilité du risque, celle de la révolte, celle du trouble, le corps, le politique, le collectif, tout ceci se lit dans vos choix artistiques et se retrouve dans les livres qui peuplent votre bibliothèque, une bibliothèque qui honore le présent. Merci beaucoup d'avoir accepté de la déballer pour le Book Club et bienvenue un peu chez vous, Hubert Collat. Merci d'avoir fait de la place aussi dans votre emploi du temps serré, car on vous a pressé pour qu'on puisse déballer ensemble cette bibliothèque. L'exercice commence toujours par un propos sur la lecture, en général. Est-ce que vous voulez bien nous raconter quelques étapes importantes de votre vie de lecteur? Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, est-ce que l'apprentissage de la lecture a laissé des traces sur vous, dans l'enfance?
Oui, enfin, je pense qu'elle a plutôt été comme un choc, en fait, je crois, parce que j'étais d'abord très troublé par l'écriture, tout simplement parce que j'avais un handicap qui était que j'étais dyslexique et que du coup se portait chez moi une difficulté à des fois à lire ou à écrire correctement. Donc du coup les livres et l'écriture étaient plutôt de l'ordre d'un tremblement et d'une peur. Donc après je me suis glissé peut-être petit à petit dans une bibliothèque qui était chez mes parents plutôt symbolique plus que, on va dire, comme un endroit de référence ou de dialogue avec ma famille, mais des livres y étaient exposés en tous les cas et que je suis arrivé peut-être
c'est-à-dire des livres étaient exposés.
Bah ils étaient plus exposé. Je trouve que un peu notre bibliothèque était plus une monstration de livres que, comme ça arrive dans certaines familles, que finalement un lien de partage sur une certaine idée de l'écriture, de la culture. C'est pas ça qui se partageait. Enfin, je crois que j'étais plutôt dans une famille de taiseux, je crois, et que du coup c'était là et il y avait plutôt la télévision qui était allumée et pas les livres. Et après les livres, il y avait quelques endroits comme ça où j'étais allé fouiner des choses. Qui était le. Je me souviens comme ça, un livre qui était Le vieil homme et la mer, en fait, que j'avais lu, mais c'était tout jeune. Et d'abord parce qu'il y avait un lien avec la mer, le bateau dans ma famille, et puis j'avais navigué dans ce chemin de solitude-là, et j'avais trouvé comme un écho à un lien qui était à la fois familial et un peu. Je me sentais, je crois, un peu enfermé, mis à part, et du coup, je trouvais à travers ce livre-là quelque chose qui faisait écho chez moi.
Qu'est-ce qui vous mettait à part ?
Ben, la sensation d'être à part, c'est que, je ne trouvais pas de dialogue, peut-être, avec l'existence. C'est-à-dire que je ne comprenais pas grand-chose, je crois, à cette forme de responsabilité de la vie, d'un regard, etc., etc. Et je me sentais plutôt relativement persécuté sur l'orthographe, notamment à l'école. Étant dyslexique, j'avais un rapport à l'écriture qui était très pénible, puisque du coup, j'apprenais non pas à écrire, mais j'apprenais plutôt mal à écrire. Ça me permettait de cacher l'écriture, en réalité. Donc, mon rapport à l'écriture, il est passé plus par quelque chose de caché, pour y découvrir petit à petit, en fait. Et c'est passé, je crois, par le théâtre, curieusement, sans le savoir, au début, d'avoir lu quelques pièces, peut-être qu'il venait de l'école, comme j'ai un venu souvenir de Knock, en fait. C'est très curieux, mais qui est resté en mémoire comme ça assez longtemps. Donc j'étais très surpris quelques années après de voir les films de Knock en me disant, tiens, c'est bizarre que j'ai été sensible à cette écriture-là, mais il y avait quelque chose là-dessus qui m'avait interpellé. Même certaines écritures de boulevard
Des textes de théâtre qui vous arrivaient par l'école.
Qui sont arrivés par l'école, comme des retours. Alors, du coup, je fouinais ça, puis j'avais trouvé et puis La Guerre des Mondes aussi, qui a été presque inconsciemment peut-être ma première mise en scène, puisqu'en fait j'étais dans une école audiovisuelle justement où l'écriture était mise un peu de côté, et on nous avait demandé quand même de trouver un livre, et ça a été La Guerre des Mondes, et d'illustrer La Guerre des Mondes comme dans une espèce d'émission télé-radio aux élèves. C'est-à-dire qu'on était les élèves étaient nos propres profs, en fait. On donnait des cours aux élèves, en fait. C'est curieux, mais c'est comme ça que ça se passait. Donc j'avais fait un cours sur La Guerre des Mondes, en fait, sur ces horribles ovnis qui arrivaient et qui allaient nous détruire. Donc j'avais monté des petites diapositives. J'avais fait tout un montage déjà, en fait, autour de ce livre. Et c'est par là qu'en fait les choses ont commencé. Puis petit à petit, j'ai découvert dans la bibliothèque de mes parents, qui avait été confiée par mon arrière-grand-mère, des vieux livres de Molière. En fait, il y avait tout Molière, en fait. Et du coup, mais dans des très vieux, en vieux français, etc., etc.
Parce que cette arrière-grand-mère lisait beaucoup.
Eh ben alors, je l'ai pas beaucoup connue. Enfin, j'ai eu très peu de rapports vraiment directs avec elle. Par contre, elle a eu un lien, et que c'est la seule qui a eu un lien vraiment avec le théâtre dans ma famille. Quelques années, plus que quelques années auparavant, puisque l'anecdote de ça, c'est que cette arrière-grand-mère, je ne le savais pas, était marseillaise, où je suis retourné sans le savoir, et le paradoxe du truc, c'est qu'elle a eu un théâtre en plus à Marseille.
Ah oui.
C'était curieux, pas très longtemps, mais elle a eu un théâtre à Marseille, alors c'était plutôt un théâtre proche un peu de la danse boulevard, un peu les choses de l'époque. C'était quand même, je crois, c'est mon arrière-grand-mère, je crois elle a eu son théâtre au début du 20e siècle, enfin 1904 1905, par là. Puis après elle l'a vendu, et c'est complètement, après j'ai pas de trace de ça. J'ai cherché le théâtre à Marseille qui a été détruit, j'ai trouvé des vieilles traces,
et
je suis monté dans un immeuble après, même à Marseille, croyant que c'était peut-être l'ancien théâtre de mon arrière-grand-mère, et j'ai fantasmé tout en haut, parce que cet immeuble était à vendre, et c'était devenu un ancien PMU, en montant au dernier étage, je rêvais qu'il y avait des cintres qui étaient là, mais je sais pas si c'est moi qui ai revu mon histoire avec mes fantasmes, de penser que c'était vraiment cet endroit, mais c'était dans la même rue où avait eu lieu ce théâtre. Donc mes souvenirs, ils sont à cet endroit-là, et puis ça m'a emmené.
Et vous les avez lus, les livres de Molière, de votre
arrière-grand-mère ? J'en ai lu quelques-uns, pas tous. Après, j'ai cherché plus personnellement des équivalents de Molière, c'était Musset, en fait, où je me suis mis de mon côté à acheter tout Musset, en fait. Et puis, j'ai amené ça chez mes parents, j'ai mis tous les Musset.
Vous aviez quel âge à ce moment-là, à peu près ?
Je sais pas, 12 ans, peut-être 13 ans, je sais pas, quelque chose comme ça, en fait. Et j'avais acheté une belle collection dans je sais pas quel Marseille opus de Musset. Mais après, faut dire que je suis passé, tout fait sens au bout du compte, puisqu'en fait, ayant des difficultés liées à l'écriture, j'ai pu assister à quelques représentations théâtrales à Paris étant jeune, et donc ça a été plus facile pour moi de penser l'oralité, hein, d'une certaine façon, et sans doute le théâtre, sans savoir qu'un jour j'allais débarquer dans le théâtre. Du coup, j'ai écouté des textes comme ça, et puis après, je crois que je me suis mis à choisir des textes difficile, en fait, d'approche difficile où fallait que je lise 10 fois la même page.
Paradoxalement, pour essayer de presque. Vous redoubliez la difficulté par une autre.
Ainsi par les Zarathoustra. Enfin, je me baladais avec ce bouquin-là, pendant des mois, à le lire, le relire pour essayer de comprendre quelque chose. Et après, quand j'ai pris mes premiers cours de théâtre, c'était pareil. J'amenais des livres qui étaient des livres
les moins destinés au théâtre.
Oui, alors les plus difficiles, ou en tous les cas c'était des livres de théâtre, mais c'était, je voyais bien que j'amenais des objets que les professeurs ne connaissaient pas, et donc d'où la difficulté aussi de donner des cours aux élèves, enfin de me diriger moi sur des textes qu'ils connaissaient pas du tout. Donc je crois que c'est une façon de fuir peut-être aussi, en fait, cette façon-là, c'est-à-dire fuir. Enfin, comme ça, intuitivement, je me dis que c'est une façon d'échapper quand je dis fuir. C'est-à-dire que
échapper au sens de pas être capturé, quoi.
Oui, au sens de pas être capturé, mais au même titre que mon écriture était illisible, au même titre que j'étais capable de m'enfermer dans ma chambre à double clé et puis sauter par la fenêtre.
Tout ça, ça permettait d'être caché, quoi.
Oui, Si on y réfléchit, en fait, ça permettait éventuellement, peut-être, là où je dis que les choses étaient un peu taiseuses, peut-être qu'on frappe à ma porte et qu'on on vienne me raconter peut-être quelque chose. Et je suis pas sûr qu'on soit venu me raconter quelque chose.
À quel moment est-ce que les livres ont trouvé une place d'un autre ordre dans votre vie, si c'est le cas, Hubert Collat ? Est-ce qu'il y a eu un, je sais pas, comme un second temps ou un second acte dans votre vie de lecteur ?
Bah après, je crois que c'est comment mon chemin vers le théâtre est arrivé, parce qu'en fait, au début, ma bifurcation, elle a été comme j'étais nul en orthographe et que c'était assez traumatisant. J'ai essayé plutôt d'aller vers les arts visuels, en fait, et ça n'a pas fonctionné non plus. Et du coup, le hasard a fait que j'ai rencontré un soir ou un après-midi des acteurs faire du théâtre dans un jardin, et je trouvais ça complètement incroyable de voir ça. Et du coup, mon acte de lié à l'écrit, il a été d'essayer de trouver un cours d'art dramatique à un moment donné, et je suis tombé sur un vieux monsieur, si je refais c'est tout ça que je reviens en mémoire quand vous posez ces questions. En fait, j'ai un ami que j'avais rencontré et je lui ai dit, je crois que j'aimerais bien faire du théâtre. Et il me dit, mais je connais quelqu'un qui est comédienne. Et il me dit, est-ce que tu veux que je la présente? Je dis oui. C'est une femme qui s'appelait Maria Merico, qui était une actrice de la télévision à une certaine époque. Et il finit par m'avoir un rendez-vous avec cette dame. Je déjeune avec elle et lui. Et elle me dit, mon mari est professeur de théâtre. Et effectivement, je me souviens de son nom aussi. Il s'appelait Fernand Bellan. Et il s'avère que quand j'étais jeune, j'ai regardé des vieux feuilletons de télévision qui étaient Thierry Lafronde, des trucs comme ça. Et c'était un de mes personnages préférés de Thierry Lafronde. C'était une espèce de mage comme ça. Et du coup, je me retrouve chez ce monsieur qui ne donnait plus de cours de théâtre dans des écoles, mais chez lui, enfermé dans les halles, et avec sa mémoire, un vieux monsieur, mémoire qui avait fait du théâtre contemporain à son époque, etc. Et du coup, il nous sortait ses livres qu'il avait joués, et il nous demandait de lui donner les répliques. Et puis par un moment, il s'est passé un jeu, c'est qu'il m'a dit « j'ai joué ça aussi », etc. Puis il me donnait des noms de livres qu'il avait pu jouer. Et puis du coup, j'avais noté ces noms et je me suis mis à rechercher ces bouquins. Et donc je venais chez lui avec des livres toutes les semaines, des livres qu'il avait joués, et je lui donnais ses répliques. Je crois que du coup ce rapport à l'oralité, à l'écriture, en partie il a repris renaissance à travers le théâtre et à travers ses rencontres, et puis être au service de ne pas être finalement le protagoniste de celui qui lit, mais celui qui apporte la lecture à l'autre et qui me fait entendre comment il avait ce rapport aux mots.
Aujourd'hui, Hubert Collat, la lecture, elle occupe quelle place dans votre vie ?
Mais elle est un peu constante, en fait, mais par moments, je me dis, elle est complètement folle, j'allais dire. Il y a des livres partout, en fait.
Chez vous ou dans votre vie ?
Dans ma vie. C'est-à-dire, il y en a là où je travaille, mais je sais que j'ai trois endroits là où je travaille où il y a des livres. Enfin, il y a la bibliothèque que j'ai constituée pour Montevideo, qui n'est plus, mais qui est quand même la bibliothèque de Montevideo. Il y a mon bureau où il y a des livres, et puis il y a un second bureau où il y a encore des tonnes de livres. Et puis, il y a chez moi. Et chez moi, c'est pareil. En fait, il y a au moins 3 à 4 endroits où sont des livres. Enfin, il y a des livres partout, en fait, d'une certaine façon. Et chacun sont avec des annoncements complètement différents, voire totalement brouillons. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup plus lié à ma quête liée à l'écriture contemporaine. Elle a certainement un sens que j'ai pas forcément analysé, mais qui est très à l'existence, enfin qui est à une chose qui peut-être n'est pas résolue chez moi, de la compréhension de ma propre existence et du lien à, j'ai envie de dire du lien à la vie, de ce que sont les rapports avec les autres et de ce que c'est, peut-être de ce que j'ai, je crois, jamais entendu. et que je cherche à travers la lecture ce jamais entendu.
On va aller vers votre choix de texte, parce que vous êtes venu avec 5 livres qu'on appelle les livres étapes, juste après cette chanson d'une artiste qui gravite autour de ce festival actoral, c'est Théa Sauty. France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque d'Hubert Collat, Marie Richeux. On arrive dans le deuxième moment de cette bibliothèque, Hubert Collat. Alors, à nos invités, on demande de choisir 5 auteurs ou autrices qui sont des textes comme ça, qu'on appelle des textes étapes. Alors vous, on vous a demandé de faire ça, mais super vite. Et alors, sont venus à votre esprit, eh bien, un premier texte, par exemple, de Simon Johannin, qui s'appelle « L'été des charognes », qui est apparu en 2017 aux éditions Alia, qui existe aussi en édition de poche. C'est un texte que vous avez mis en espace.
Oui.
Bon, c'est un roman de l'ultra-contemporain. C'est le premier texte, je crois, de Johannin, c'est son premier. Son premier texte, ouais. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous l'avez choisi ?
C'est vrai que le temps était court, donc c'est vrai que c'est vrai que d'un seul coup le fait d'avoir travaillé sur ce texte-là fait que la mémoire
est allée le chercher
très vite. Ouais. Ouais, ça veut dire que ce texte m'habite encore au jour d'aujourd'hui d'une certaine façon. En plus, on va le rejouer dans un mois et qu'il est là. Après, je l'ai rencontré en librairie avant de le rencontrer à Marseille et avant de rencontrer Simon à Marseille et de l'inviter aussi dans le cadre de Montevideo où c'était important. Enfin, reconnaissant, j'allais dire, l'écriture. Et ce que je veux dire par là, c'est un peu comme quand je vais chez les libraires et que je vais toucher les livres je vais lire toujours la première page, en fait, du livre la plupart du temps.
Et ça se serait passé comme ça, vous auriez, oui, en librairie par exemple, ouvert L'été des charognes,
oui,
lu la première page de Johannin, oui, et il se passe quelque chose de la reconnaissance. Souvent, oui, c'est un mot que vous utilisez, ça, la reconnaissance.
Oui, parce qu'il est multiple, ce mot-là. Enfin, il est composé de plusieurs sens,
ouais,
et de se reconnaître déjà, et puis de ce terme de la naissance, mm, en fait, de cette sensation, enfin, curieuse j'ai envie de dire de pas être né, mais ou alors de ne pas être accompli, peut-être. Et du coup, à l'intérieur de ces écritures là que je choisis, la plupart du temps, quand je les approche, j'entends une voix, en fait, tout simplement. Enfin, j'ai la sensation d'entendre le corps de la personne qui l'a écrit. Et la plupart du temps, les textes que j'ai écrits, enfin, c'est valable pour les autres, je crois que c'est ça que j'entends en premier lieu, c'est le corps. C'est le corps, c'est une certaine forme de musicalité. Il y a une chair comme ça qui se fait entendre à travers les premières lignes que je lis. Mmh. Et quand il y a ça, généralement j'achète le livre. Mmh. En fait, c'est vraiment...
On y va pour un extrait de L'été, ouais, des charognes, ouais, ouais.
On avait encore quelques étés pour que les visages soient rouges, pour que le sang nous frappe, les tempes et fasses battre en nous le temps qu'il nous reste. On avait encore de quoi vivre un peu. C'était comme quelques carcasses qui nous tournaient autour, avec chacune ses petites mouches et leurs baluchons de tristesse. Il suffisait d'avancer dans l'existence pour ne plus voir qu'au travers de la nuée et d'avoir toujours des insectes entre les yeux et le reste. À chacun sa charogne. La mienne s'appellera Lou. J'avais rencontré Lou quelques mois auparavant, et sentait venir la catastrophe, la tragédie. J'effaçais mes souvenirs comme on nettoie les vitres. Le premier jour, elle était sur le trottoir d'en face et la vie lui sortait par tous les pores. Elle avait vraiment besoin de vivre. Elle était pas comme nous à traverser l'existence bêtement en s'appuyant sur sa tristesse pour se contenir, à se hisser sur nos malheurs pour atteindre le regard des autres. Elle était pas comme ça. Elle en voulait, Lou. Elle était prête à tout pour en avoir encore des secondes. Elle m'a mangé comme un requin. J'ai surpris sa féminité et ce que je pensais être la féminité, lui faire exécuter tout un tas de gestes. C'était des cheveux en l'air, des sourires en coin, des déhanchements vertigineux et des brassières de taille en dessous et un rire à amadouer les démons. Sa vie, c'était un maléfice. Elle était bridée comme un cheval pour une famille trop malheureuse et cumulait les privations. Tout ce qui aurait pu la définir se retrouvait interdit. Elle vivait en délire sous les coups du sortilège dans une puissante hystérie. J'ai vite appris une chose avec Lou. Il ne faut pas enfermer les gorilles. Alors, quand elle arrivait le lundi dans son pull trop noir et trop grand comme dans un deuil de coton, on filait à s'enfermer aux toilettes pour qu'elle se rhabille le moins possible et laisse courir sa peau dans les yeux des autres. Ça déclenchait des cataclysmes. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer parce que c'est le début de la deuxième partie en fait. Donc les choix que j'ai pu faire des livres, c'est les démarrages de parties. Mmh. Après il y a des moments dedans
dans le texte de Simon Johannin
qui sont et éblouissants de la rencontre de tout jeune homme qui avait 8 ans et il en écrit justement, sa petit à petit sa connaissance du monde, comment il s'épanouit d'une famille qui est très, on va dire, carnassière, enfermée dans un peu de culture, et pour sortir de plus en plus de lui-même et comprendre ce que son corps entend, et notamment ce qu'il entend à travers Lou. Et c'est des textes de naissance. Hein.
Mmh. Ouais, c'est vrai.
En fait,
c'est
la plupart du temps, celui-ci, et comme beaucoup d'autres, c'est des textes de naissance, peut-être des fois de maturité, qu'ont pu exister. Ou alors...
Mais comme de compréhension, ce serait ça ?
Oui, je pense, oui, de quelque chose qui décèle à travers les émotions une compréhension que l'esprit n'a pas encore obtenue. Mmh. En fait, je dirais ça comme ça.
Et est-ce que vous diriez, Hubert Collet, que c'est aussi des choses qui se sont passées en lisant des textes ? Est-ce que, par exemple, certains textes vous ont, vous, permis de comprendre des choses ? Ont été comme des, je sais pas, des lampes torches ou des... Ou je sais pas, quelque chose qui dissipe le brouillard ou... J'essaye de trouver une image. Par exemple, moi, je me souviens qu'il y a des textes où c'est comme si il y avait de la brume et puis je pouvais écarter la brume.
Oui, je pense que c'est des textes qui me disent que le désir est possible, je crois.
On va écouter une archive d'un autre auteur que vous avez choisi. Ils sont jeunes, les auteurs, quand ils ne sont pas morts. Ouais, celui-ci s'appelle Jean d'Amérique. On va l'écouter parler de ses textes à lui et de sa poésie.
Je crois qu'il y a un travail nécessaire sur la langue. On a tous des histoires à raconter, on a tous des choses à dire. Mais maintenant, l'enveloppe, en tout cas que moi, je trouve pour le dire, pour les dire, c'est la poésie qui me permet de transcender tout ça en une matière lumineuse, en fait. Parce que la poésie, ça reste quand même la mère de tous les genres littéraires. Et voilà, dans le théâtre, dans le roman, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce travail-là, de sublimer le langage, de lui rendre sa justesse et de lui rendre justice poétique.
Moi, tête fêlée, allégorie des mille et une peines du ghetto, maquette de symphonie vitale échoue, la voix naufragée, maintenant, mon souffle résonne dans une spirale de mots, étrange cacophonie, mon nom est un poème de fin du monde, des lueurs corrosives emprisonnent les bords de ma vie, me rongent jusque dans les profondeurs, peau livrée au champ des épines. Je suis comme enfoui dans un immense labyrinthe et ne sais d'où viendra enfin une brèche pour m'esquisser un horizon. telle une bougie s'imposant des larmes mortelles. Me voici, trafiqué, dans les halos de la violence. Je force mon regard jusqu'à me saigner les yeux, lacéré, jusqu'au plus profond des entrailles. Je dépose un épitaphe sur les fleurs massacrées de mon enfance. Voile éraillée, aile cassée dans les orages du temps. Parfois, je comprends les gens qui, comme mon père, avec son beretta chéri, à en croire la légende de la bouche qui donne et de l'oreille qui reçoit, se lèvent un jour et s'éclatent le crâne une fois pour toutes. Mon enfance, troupeau d'aiguilles, dans la chair de mon âge, triste quartier, ô ma cité des dieux, je te maudis pour mes rêves dressés dans la foudre.
C'est un extrait d'un texte qui s'appelle « Soleil à coudre » qui est paru en 2021 aux éditions Actes Sud, qui est signé donc Jean d'Amérique. Comment vous avez découvert ce texte, Hubert Collat ?
Bah, pareil.
En librairie.
En librairie, tout simplement. Je l'ai lu et là j'étais. En fait, pareil. Après, j'ai invité Jean à Marseille. J'ai pu le rencontrer et je trouve que quand j'ai lu le texte en librairie, je trouvais que il osait au-delà du poétique, il osait le baroque, j'ai envie de dire. Il osait des mots romantiques. Enfin, il osait ce que la littérature contemporaine avait moins il y a quelques années. Enfin, n'osait pas trop il y a quelques années. Donc, je retrouvais quelque chose, j'allais dire du Genet, en fait, d'une certaine façon.
Mais une forme de lyrisme, du coup, ça
oui,
serait
une forme
ça
de lyrisme ouais. aussi dedans. Et puis, pareil, un corps dans l'écriture. Et puis après, quand je l'écoute, lui, Jean, lire, je suis généralement bouleversé par sa lecture, sans pouvoir réellement expliquer ce qui me trouble profondément quand je l'entends lire. Ça m'émeut, des fois je pleure tellement il y a quelque chose qui parle directement à l'intérieur du corps, en fait. Je pense qu'il y a la fêlure, la fragilité, ce qu'il exprime d'Haïti, ce qu'il exprime de cette terre meurtrie, en fait, me parle comme sont ces textes-là, comme des véritables corps fantômes qui se battent à l'intérieur de moi et qui tentent de trouver, je crois, par les choix que j'en fais, soit de la mise en scène ou soit de mes propres tentatives d'écriture, une voix, en tous les cas, un corps pour célébrer une forme de liberté.
Là, on l'entend aussi dans ce que vous avez lu. Il y a vraiment des images très fortes. Enfin, moi, j'ai attrapé troupeau d'aiguilles, quoi. Mon enfance, troupeau d'aiguilles. Il y a quelque chose de très, en effet, physique, mais même dans la langue matérielle. Et je pense à ce nom. C'est vous qui l'avez choisi, Actoral ?
Oui, en fait, j'ai choisi parce que, en fait, j'ai donné des cours de théâtre et d'écriture pendant un temps en Bolivie, et les élèves qui étaient avec moi, enfin les jeunes acteurs qui étaient avec moi, disaient que la façon dont je les dirigeais, dont je parlais de l'écriture, était un actoral.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, c'est resté dans ma tête. Et quand j'ai créé un temps de rencontre autour de la littérature et qui n'était pas simplement la littérature théâtrale. Mais le lien à la poésie, je trouvais qu'Actoral résumait bien comme il l'avait dit.
Qu'est-ce que ça dit justement ? À quoi ça vous... Où est-ce que ça vous place vis-à-vis des textes, vis-à-vis des livres, l'idée qu'il y a un acte ?
Parce qu'il y a du corps. Je crois que c'est ça aussi. Enfin, il y a du corps, il y a du corps invisible. Enfin, il y a du fantôme entre celui qui lit et celui qui a écrit. Et que c'est ces fantômes-là qui m'intéressent. C'est-à-dire, il y a celui qui a, ou celle qui a écrit, ou celui qui dit, ou celui qui a écrit pour le théâtre. Et puis, à un moment donné, il y a une puissance de l'invisibilité dans l'écriture et qui est celle qui me séduit absolument. C'est pas ce qui est écrit au premier degré qui me parle, c'est ce qui est la seconde couche en fait de l'écriture, ce que les mots tentent de dire et qu'ils n'ont pas écrit, et que ceci existe dans ces écritures là et que c'est ça que je crois entendre d'une certaine façon.
Vraiment l'écriture souterraine.
Oui.
Je disais qu'il y avait des auteurs jeunes et morts dans votre sélection de textes, Hubert Collat, mais c'est vrai quand même. Il faut dire, Jean d'Amérique, il est né en 1994. On a lu le texte de Simon Johannin, il est né en 1993. Si je ne m'abuse, on va s'apprêter à lire un livre de Laura Vasquez, 1986. On en viendra à deux auteurs morts que vous avez choisis ensuite, mais il y a quelque chose de la jeunesse, vraiment. C'est des jeunes, c'est des tout jeunes gens, des jeunes auteurs, des jeunes autrices. Qu'est-ce que ça dit aussi de vous en tant que lecteur d'être attentif à la littérature qui naît? Tiens, on utilise encore ces mots-là de naissance.
Bon, je crois qu'il y a deux choses. Il y a à la fois l'évolution des époques aussi. Je pense que ces auteurs-là parlent d'aujourd'hui. Et alors, toute cette problématique du corps masculin, du corps féminin, je pense que ces auteurs-là sont... trouve une autre façon de parler du monde d'aujourd'hui et peut-être de façon beaucoup plus libre, à la fois plus violente par moment, mais aussi plus douce dans la compréhension de l'autre. Mmh. Je pense que c'est ça que j'entends d'une certaine façon et comme aussi une tentative peut-être dans certains corps masculins de expier une certaine forme d'éducation à un moment donné qui les a façonnés d'une certaine façon et qui les met en éveil vers une altérité différente, qu'elle soit celle de la femme pour l'homme qui écrit, ou celle du genre, ou celle de l'acceptation d'un pluriel, et que dans tous ces corps étrangers que je peux lire dans l'écriture, c'est ça qui m'interpelle, c'est cette reconnaissance possible de ce que l'on ne comprend pas.
On va écouter la voix de Laura Vasquez, figure de la poésie contemporaine. Ici, elle est au micro d'Eva Bester sur France Inter.
Alors c'est ça, c'est un livre, donc on peut le lire. On peut le lire et les phrases sont là. Elles sont là et puis elles ont, j'espère, leur vérité. Mais c'est un livre très particulier puisque, en tant que pièce de théâtre, c'est un livre qui n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il est à continuer. Il est à faire dans la vie, avec des corps, avec des personnes qui respirent, qui ont une voix, qui ont une manière de se déplacer très particulière, qui ont une respiration spéciale dans les phrases, enfin spéciale en tout cas personnelle. Donc, il a deux manières de vivre ce texte-là.
Voilà, c'est un livre à faire dans la vie, dit Laura Vasquez dans cet extrait d'émission de radio. Hubert Collat, c'est la troisième autrice que vous choisissez d'évoquer dans ce déballage de bibliothèque pour le Book Club. On va y venir, c'est un texte qui s'appelle Zéro, un livre qui s'appelle Zéro. Mais avant ça, je voudrais qu'on profite de ce qu'elle énonce là, Laura Vasquez, l'idée de livre à faire dans la vie, pour parler du travail que vous faites, vous, quand vous mettez en espace des textes pas toujours destinés au théâtre. Moi, j'ai vu plusieurs de vos, je sais pas, propositions à partir de textes qui sont pas des textes avec des didascalies et des actes 1, scène 1 et des personnages. Je sais pas, est-ce que vous pouvez parler de ce travail-là? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de mettre sur des plateaux des textes qui, comme a priori, n'y seraient pas destinés?
Je sais pas ce qui m'a fait glisser vers ça.
Vous l'avez fait pas mal ces derniers temps.
Oui, quasiment exclusivement en fait, puisque ça a été Mathieu Riboulet, Simon Johannin, Hélène Lorrain aujourd'hui. Je crois que j'ai pas bien. Pour l'instant, je sais pas ce qui est. Je trouve dans cette littérature-là ce que je ne trouvais pas au théâtre, vraisemblablement. C'est-à-dire cette notion simplement de la reproduction de la scène. Je pense que j'ai la sensation qu'au théâtre, on est plus sur ce schéma-là. Enfin, moi, j'avais plus envie de ce schéma de la scène, de l'inauguration de la scène, avec une espèce de conflit. Même si aujourd'hui, paradoxalement, je suis en train de monter un auteur de théâtre.
Pinter.
Pinter, qui est par excellence l'antithèse de ce que j'ai fait jusqu'à présent, et me poser les questions de comment on peut aborder le théâtre avec un auteur de théâtre, mais j'ai eu plus de mystère. Ça rejoint ce que j'ai tenté finalement d'avoir rencontré malgré moi à un moment donné, c'est-à-dire je suis à la découverte, c'est de l'archéologie à un moment donné. Je pense que ce que dit aussi Laura Vasquez, c'est que il y a un moment donné où on constitue du corps en fait avec ce qu'elle a écrit, avec ces textes-là, et c'est ça qui apparaît pour moi. Quand je parlais tout à l'heure de corps fantôme, c'est ça. Enfin,
mais ça veut dire qu'avec les interprètes avec qui vous travaillez, vous allez à la recherche du corps fantôme, vous allez à la recherche de l'écriture souterraine qui vous parle tant, celle qui vous intéresse, celle qui vous dit que le désir est possible. C'est ça que vous faites à table, concrètement, comment ça se passe? Comment vous travaillez?
Bah après, en fait, ce que j'essaie de leur dire des fois, écoutez ce que l'écriture fait chez vous. Ne vous dites pas que vous savez ce que l'écriture dit, mais écoutez ce qu'elle fabrique chez vous. Laissez sortir ce que vous n'avez pas appréhendé. C'est pas dans les premiers jours de répétition qu'on sait en fait ce que une écriture vivante produit chez nous, et donc c'est cet inconnu-là que j'essaie de leur dire d'écouter dans un premier temps, et après de trouver les correspondances, s'il y a plusieurs acteurs ou pas, et comment ce texte résonne chez eux. Il y a un autre parcours qui se fait, c'est-à-dire que un mot chez un acteur va être différent chez un autre, et c'est aussi cette résonance-là en fait que je
vais...
Et
différent de votre propre parcours de lecture.
Et aussi, bien évidemment, différent du mien, et c'est aussi à un moment donné, chez moi, devoir d'acceptation, d'entendre à un moment donné ce que je n'ai pas soupçonné. Ou de découvrir dans la musicalité de l'acteur ou dans l'inconscient de l'acteur quelque chose où je pourrais le guider à développer justement ce que son corps se met à entendre du texte ou se dévoile, et de dire ouvrons par là, ouvrons plus par là. Je crois que c'est un peu... Alors, j'essaie de moins en moins nommer explicitement ce que dit un texte pour être de moins en moins celui qui va dire, qui va avoir le maître mot de ce qui signifierait un texte. Je vais mettre ça en partage, et je vais pointer une musicalité, je vais pointer des répétitives, je vais pointer, encore une fois, comme un travail archéologique de l'écriture, je vais pointer une mise à la ligne, je vais pointer une absence de ponctuation, je vais pointer une ouverture de langage qui d'un seul coup va être multiple, comme les composants d'une écriture chinoise qui d'un seul coup, avec plusieurs signes, crée un nouveau sens. En fait, je vais être à l'affût de ça.
Et ça veut dire que quand vous vous lancez dans un travail autour d'un texte, c'est que c'est un texte qui vous a touché, mais que vous ne comprenez pas, sur lequel vous ne pouvez pas dire de parole définitive.
Oui. Je ne veux pas, après je pourrais le lire et puis dire des choses, mais je vois bien qu'à un moment donné, si je m'apprête trop... en tant que metteur en scène qui dirait je sais ce que j'ai compris, ben je viens avec ça, et qu'est-ce que je vais comprendre de ceux qui sont devant moi que eux-mêmes vont comprendre d'un livre? Si je ne suis pas à l'écoute de ça, je suis à l'écoute de rien, et que au stade où j'en suis, c'est vrai que je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir ce que l'autre peut m'apporter et ce que je peux éventuellement timidement ou pas lui apporter dans cette découverte réciproque.
Vous avez choisi Zéro. Vous voulez bien en lire un extrait pour nous?
C'est Zéro, c'est la... J'étais très surpris parce que c'est la première pièce de théâtre de Laura Vasquez.
Qui est plutôt connue pour son travail de poésie.
Qui est essentiellement connue pour son travail de poésie. Je savais pas trop quel extrait choisir. Et puis j'ai mis un petit post-it, mais...
J'aime tellement vos post-it.
Je sais même plus pourquoi. En fait, c'est dans le chapitre 3. Enfin, l'acte 3, pour le coup, parce qu'elle nomme finalement, elle ne marque pas acte, mais elle marque 3. Yeux bêtes, deux filles s'embrassent grâce à l'histoire et à la géologie. Il y a des didascalies un peu.
Bah, allons-y pour les didascalies.
L'une prend les bras de l'autre, elle les commande, elle fait des gestes, au début lentement et de plus en plus vite. L'autre prend les bras de l'une, elle fait des gestes au début lentement et de plus en plus vite. Elles arrêtent, se prennent dans les bras. Si tu as mal ici, je peux appuyer ici? Oui. Tu as mal ici? Oui. Je peux appuyer ici? Je sais. Si tu as mal, je vais appuyer ici? Oui, je sais. Silence. Moi aussi. Je sais. Ça ne sera pas de ta faute? Oh non. Une fois, j'étais enfant. Derrière ma maison, une rivière passait. Un jour, près de la rivière, dans la rivière, l'eau noire, les usines déversaient leurs déchets, les liquides sombres. Et ce jour-là, l'eau noire, j'ai plongé. Je veux dire, je suis entré sombre, si noir. Ce n'était pas seulement de l'eau, gluante, épaisse. Je suis devenue collante, sombre. Je n'avais plus une peau, mais une couche d'épaisseur. Une couche d'épaisseur. Et le liquide, sombre, comme une nouvelle enveloppe, comme une personne neuve. J'étais seul enfant. J'allais près de la rivière, où, dans les arbres, dans les églises et les garages, je trouvais des objets secrets jetés, je traînais. J'avais des visions dans mon esprit. Je regardais longtemps le ciel ou les murs. Je voyais des points d'or et d'argent. Ils scintillaient parmi les choses. J'aurais voulu les mettre dans les yeux d'une personne autre. J'inventais une personne et je lui mettais dans les yeux les points noirs d'argent. Cette personne et moi regardions les mêmes points et mon estomac ne fonctionnait pas très bien. Je vomissais beaucoup. Le matin, tous les matins de mon enfance, mon estomac avait des problèmes. J'avais des visions. J'étais en moi. Et me lever, me préparer et faire une journée me semblait, et tout me semblait, les eaux noires. Je me demande si c'est ici, et c'est ici que tu existes. On dirait qu'une maladie se propage, on dirait qu'elle nous modifie. Tu es sèche, toi, tu es ici, mais tu es sèche, tu es fatiguée, tu es là, tu es pleine d'usure. Tu recommences. Oui, c'est ça. Ma tête se met à bouillonner. Oui, je le vois aux yeux. Elle se met à bouillonner. Touche. L'autre touche sa tête. Il n'y a plus beaucoup de lumière ici. Non. Je vais allumer. N'allume pas. Pourquoi ? N'allume pas maintenant. Pourquoi ? Est-ce que tu te rends compte ? Tu n'as pas remarqué ? J'ai trop de lumière. Tu n'as pas remarqué ? Où la mettre ? Je voudrais te faire le... Non, je voudrais te... Je vais te prendre et je te... Je voudrais te... Toi, et je vais le... Et j'aimerais que tu... Je voudrais que tu me... Toi aussi, tu me... Il faudrait que tu me... Et moi, j'aimerais te prendre et te... Et moi, j'aimerais... Silence, 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 silence...
Vous voulez dire un mot supplémentaire sur Zéro de Laura
Vasquez ? Ça m'émeut. Mais ces écritures, je trouve qu'elle entend l'inaccomplissement de la rencontre amoureuse. Et je trouve ça très beau d'oser parler d'amour et que ça soit de l'amour et qu'on en parle dans ce qui n'est pas comblé, ce qui n'est pas vécu et ce qui est l'échec de l'amour et qui est amour malgré l'échec. Je trouve ça très beau. Je trouve que c'est une magnifique écrivaine.
On va vers deux autres auteurs, autrices que vous avez choisies, Hubert Collat. À votre guise, il reste Sarah Kane dans les piles de livres et Mathieu Riboulet. Vous voulez commencer par quoi ?
Oh, c'est pas, c'est pas les deux.
Moi, j'ai envie plutôt de vous entendre sur Mathieu Riboulet parce que ça fait partie aussi des choses que j'ai vues sur scène d'un travail que vous aviez fait autour d'un texte de Mathieu Riboulet. Ça m'avait marqué. Mais alors, ce qui est très étrange, c'est que ça m'avait marqué et quand j'ai lu le titre du texte que vous aviez adapté, c'était pas le texte dont je me souvenais. C'est drôle. Peu importe.
Oui.
Alors, Mathieu Riboulet.
Oui. Bah, Mathieu Riboulet.
Ah, parce qu'il y avait deux textes.
Il y avait un extrait d'un des livres où il témoigne comme ça des corps rencontrés, enfin, comme beaucoup hein, dans son écriture. Et l'autre, c'est un petit texte qui avait été écrit, publié chez Verdier aussi, qui était.
Avec Boucheron.
Oui.
Prendre date.
Oui. Non, c'est Nous campons sur les rives.
Ah, Nous campons sur les rives.
Ouais, qui était,
et sinon, c'était La lisière des corps.
Dans La lisière des corps, c'était une...
Ou Entre les deux, il n'y a rien.
Ouais, ouais.
Non, La lisière des corps.
Ouais.
Et qui bon, alors Mathieu Riboulet.
Enfin, très, très beau. Puis c'était des partages aussi, justement, avec les acteurs, enfin, d'écouter comment ça travaille chez eux. Et puis bah, Mathieu, ça fait partie comme le son Jean et d'Amérique et Simon Johannin. C'est des personnes c'est une personne que j'ai pu aussi rencontrer parce que j'étais troublé par son écriture et que je l'ai invité et que je, et puis il avait une une certaine grâce à lire ces textes que je trouvais vraiment très très beau à entendre. Et là aussi, pareil, je suis troublé par son écriture qui parle de la rencontre des corps, enfin, et par une écriture, j'ai envie de dire poétique, mais c'est pas poétique au sens de la poésie, mais une grâce de l'écrit comme un regard porté sur les autres en étant extrêmement délicat sur ce qui se rapproche, sur ce qui s'unit et se désunit encore une fois, et que quand je choisis, alors que il y aurait presque pas à choisir chez Mathieu Riboulet dans quel livre, tellement le lien que je pourrais avoir à l'écriture de la lecture de Mathieu Riboulet est une espèce d'énorme fleuve, ouais, sur lequel je pourrais naviguer.
Mais c'est aussi parce qu'il y a un fort continuum dans ses textes à lui.
Oui, absolument. Et après, dans Les œuvres de miséricorde, il y a aussi une chose qui était en appel, qui est comme ça, qui est en fait, je crois que c'était un texte sur lequel je me suis arrêté parce qu'il y avait un trouble qui était un trouble familial, en fait, sur le rejet des Allemands à cause de la guerre.
Chez moi, dans votre famille,
dans une partie de ma famille, parce que mon grand-père était juif et que d'un seul coup il y a la mémoire transmise à ma mère, etc., et qui parlait des Allemands et qui ont parlé de leur fuite, etc., 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 d'une partie de ma famille, et que d'un seul coup ce texte parle de la rencontre de deux corps, d'un Français et d'un Allemand, et du trouble de ce que deux générations n'ayant pas vécu la guerre se mettent à vivre lorsqu'ils s'approchent l'un de l'autre. Et donc d'être dans cette mémoire du passé, qu'on le veuille ou non, qui n'est pas notre propre mémoire, mais la mémoire des autres, donc de l'éducation, de ce qui fait souvent la guerre dans le monde, qui n'est pas en réalité le raisonnable de ce que nous sommes aujourd'hui, mais le passé qui nous assaille pour justifier nos actes d'aujourd'hui face à nos troubles. Et pour moi, ces textes sont des grandes réconciliations, en fait.
Vous lisez un extrait de Les œuvres de miséricorde, c'est 2012, pour les éditions Verdier.
C'est à ces histoires-là qu'on doit les larmes qui nous montent aux yeux des Bar-le-Duc. Quand nous prenons les chemins de la mémoire qui furent longtemps les chemins de la guerre, monter à la mémoire, pour moi qui suis né à 15 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à un grain de sable, à un très court instant, à pas même une génération de l'achèvement du très long conflit entamé en 14, c'est monter en guerre. J'ai donc rejoint l'Allemagne, dont je ne connais pas la langue. Sans larmes, mais en portant les noms d'or sur les plaques, je suis à Cologne. Je voudrais bien désormais penser, dès Bar-le-Duc, non pas pleurer. Il se peut que j'aie affaire à cela, le lien entre l'émotion de Madame Jean et le détachement des étudiants des programmes Erasmus qui visitent Dachau, comme nous, Pompéi, empli de révérence et de solennalité, avant tout que cela sombre. Je regarde le garçon allemand qui me fait face. Et je l'ai saisi par la nuque. Il est bien entendu que c'est de plaisir qu'il s'agira entre nous. Je le dévais en silence. Nous sommes aux premières mesures d'une cérémonie du corps. Je vais faire de ce corps l'objet de ma jouissance. Il me mettra hors de moi. Mais je mesure comme jamais que chacune des étapes du chemin qui nous mène à l'étreinte, à la sueur, aux larmes, à la salive, au foutre, peut tourner au calvaire. S'ouvrir sur la souffrance, la contrainte et la force, résoudre en sang l'espoir qu'on y avait placé. Cela ne tient à rien d'autre qu'une intention soudaine servant en lieu d'un désir plus ou moins ordonné, une ambition retorse, un besoin absolu d'une chimère folle où se glacent les sens, parfois une simple idée. Maintenant, je veux savoir son nom. Car il a entendu que le tumulte historique qui agite ma raison, et peut-être la sienne, sera ce soir endigué, contenu, dans les limites que nous lui fixons dans l'ordinaire des jours pour pouvoir continuer à avancer dans les livres et dans l'art, dans les prières, les vœux et les regrets. Je veux savoir son nom. Et mon geste retient, pour un instant encore, la chemise entrouverte. Name. Andreas. La chemise est au sol. Andreas, torse nu, devant moi, avec, comme un déséquilibre entre les deux épaules, quelque chose de noueux au centre qui renferme la force, un tableau peu aimable, mais si précisément construit que je redouble d'envie et d'attention. Ce n'est pas un corps d'aujourd'hui, mais un corps de peinture, c'est-à-dire un corps de toujours venu des vieux temps. L'époque où nous sommes ne consent à les voir que dans les musées, les détails chez Caravage, les disputes chez Gréco, sans songer qu'ils venaient de la rue, ou s'ils se tiennent toujours, d'autant plus émouvant de revenir à nous dans de telles lumières.
C'est très beau. Le dernier choix se tourne vers Sarah Kane. Vous avez proposé deux textes, oui, à la fois Purifié et 448 Psychose, qu'on connaît un peu plus.
Oui.
Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots avant d'en lire un extrait ?
Bah, Sarah Kane, pareil. Enfin, c'est marrant, parce que quand j'ai lu pour la première fois Sarah Kane, c'est sûr que j'ai l'impression d'avoir. C'est prétentieux de dire une chose pareille, mais j'avais comme l'impression d'entendre une sœur, une chose comme ça, qui parlait. J'étais très troublé par cette écriture, très, très, très sensible, très, très. Enfin, les fleurements de la mort, et une chose qui me touchait énormément, enfin, sur l'impossibilité de continuer, sur l'impossibilité de trouver la réponse de nos propres douleurs à travers le corps d'un autre. Et Sarah Kane exprime l'endroit où elle semble ne pas être née, ne pas être vivante, et qu'elle elle tente à travers plusieurs chemins d'écriture, que ce soit 448 ou que ce soit Purifié ou d'autres, ce lien-là à l'amour.
Vous les découvrez quand ils paraissent ? Fin des années 90, début des années 90.
Oui, ouais. Elle était pas, quand j'ai découvert, elle était encore vivante.
Elle était encore vivante.
Elle était encore vivante et elle a disparu quand. Moi, j'ai monté Purifié. J'ai tout fait entendre de Sarah Kane à monter vidéo au début des années 2000. J'avais invité plusieurs metteurs en scène, acteurs, où j'ai dit partageons ce temps, et on avait tout fait. On avait tout écouté pour mesurer comme ça cette écriture que je trouvais importante. Puis c'était au moment du début de monter vidéo, c'était un moment où je me posais des questions beaucoup sur l'écriture théâtrale, justement pour sortir de ce côté scénin, ces choses, même si dans certains textes elle le faisait, mais on voyait bien tout le champ de l'univers qui se modifiait au fur et à mesure de son écriture, dans même les mises en page, le poétique, enfin, et l'absence d'aller jusqu'au bout d'une idée qui laissait du blanc et qui nous laissait, nous lecteurs ou nous vivants, porter les mots qui manquaient. Et tout ça, c'est un parcours de vie que je chantais chez elle, et c'est pour ça que j'aime son écriture qui aujourd'hui résonne encore très fortement.
Vous voulez lire un extrait duquel ?
Oui, là, sous les yeux, j'ai 448. Bon, si j'ouvre le premier extrait...
C'est 2448 Psychose, c'est 2000, la parution du texte de Sarah Kane. Et là, il y a une nouvelle traduction de Vanessa Ikanfomala, toujours aux éditions de l'Arche.
Je suis triste. Je sens que le futur est sans espoir et que les choses ne peuvent pas aller mieux. Je m'ennuie. Et rien ne me satisfait. Je suis un ratage absolu en tant que personne. Je suis coupable, je suis puni. Je voudrais me tuer. J'arrivais à pleurer avant, mais maintenant je suis au-delà des larmes. J'ai perdu tout intérêt pour les autres. Je n'arrive pas à prendre de décision. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à penser. Je n'arrive pas à dépasser ma solitude, ma peur, mon dégoût. Je suis grosse. Je n'arrive pas à écrire. Je n'arrive pas à aimer. Mon frère est en train de mourir. Mon amour est en train de mourir. C'est moi qui l'ai tué. Je fonce tête baissée vers ma propre mort. Je suis terrifié par les médicaments. Je n'arrive pas à faire l'amour. Je n'arrive pas à baiser. Je n'arrive pas à être seul. Je n'arrive pas à être avec d'autres. Mes hanches sont trop grosses. Je n'aime pas mon sexe. 4h48, quand le désespoir me rendra visite, je me pendrai au son du souffle de mon amour. Je n'ai pas envie de mourir. Je suis tellement déprimé d'être mortel que j'ai décidé de me suicider. Je n'ai pas envie de vivre. Je suis jalouse de mon amour qui dort et lui envie son sommeil artificiel. Quand il se réveillera, Il m'enviera ma nuit passée à me ruminer sans fermer l'œil et ma parole intacte de médicaments. Je me suis résolu à mourir cette année. Certaines parleront d'autocomplaisance. Quelle chance elles ont de ne pas connaître la vérité. Certaines reconnaîtront le simple fait de la douleur. Ceci est en train de devenir ma normalité. Déjà, on entend un petit bout d'extrait, peut-être. Je redoute de perdre celle que je n'ai jamais touchée. L'amour me tient esclave dans une cage de larmes. Je mange ma langue avec laquelle je ne pourrai jamais lui parler. Je désire une femme qui n'est jamais née. J'embrasse une femme par-delà les années qui disent que jamais nous nous rencontrerons. Tout s'efface, tout s'éteint, tout s'estompe. Ma pensée s'enfuit avec un sourire de tueur aux lèvres et laisse derrière elle l'angoisse stridente qui hurle dans mon âme. Pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir. Une chanson pour celle que j'aime, pour toucher son absence, le flux de son cœur, l'éclat de son sourire. D'ici 10 ans, elle sera toujours morte. Quand je saurai vivre avec, quand quelques jours passeront sans que j'y pense, elle sera toujours morte. Quand je serai une vieille dame à la rue, que j'aurai oublié mon nom, elle sera toujours morte. Elle sera toujours morte. C'est juste fini, putain. Et je dois rester seul. Mon amour, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, je vais m'arrêter là. Bon, bon, je rigole, mais c'est pas drôle en fait ces textes. Mais je les trouve toujours incroyables. Je les trouve incroyables parce que ces corps absents dont elle parle,
c'est même des corps impossibles plus
oui,
que absents.
Ouais, ouais. Il y a une chose de la vie de difficulté de l'existence, en fait. Je m'y reconnais sans doute parce que il y a ça chez moi, il y a ça que je guette à travers les écritures, et ces écritures, elles m'aident à vivre. J'aurais pas ça, je crois que même il y a un côté là où je dors, il y a des dizaines de livres autour. Enfin, à ma tête, là où je dormais hier soir, il y a 20 livres derrière ma tête, qui sont autant de simplement couvertures des fois ou de mains. Enfin, je fais ça des fois. Je le mets ma main derrière ma tête et j'attrape n'importe quel livre. Et quand la nuit est dure, je m'endors un peu avec eux.
Merci beaucoup, Hubert Collat, d'avoir ouvert votre bibliothèque.
Merci, Marie.
Au bout de la nuit, je navigue dans le fleuve de mes entailles. Naufrage. Une prière secrète à la vie, qu'elle me fasse un pansement de lumière. Depuis longtemps, mon âme attend l'hiver. Neige noire sous un ciel funéraire. Le soleil saigne, enterré dans la poussière. Je ferme les yeux, la mort sera mon somnifère. Des blessures dans la tête, moi j'ai pas appris à penser. Baigné de sang, mon visage bleu pâle. Noyé mon éclat lunaire dans une flaque d'eau sale.
Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha, à la réalisation Anna Holweck. On peut retrouver toutes les références des textes évoqués par Hubert Collat sur la page du Book Club. C'est aussi là que vous retrouvez tous nos portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.
La nuit envahit l'horizon, pays moins. Moi, voyons l'oreille, non, je peux moins. L'espoir n'a baigné en rivière sans. L'avenir non noir et non yon ayant. Né dans les vents violents, je crois que les ravages me fascinent depuis l'enfance. Mon âme une bouteille à la mer du silence. Ici le cri d'un poète ivre de naufrage. Né dans les vents violents, je crois que les ravages me fascinent depuis l'enfance. Mon âme une bouteille à la mer du silence. Ici le cri d'un poète ivre de naufrage. Mon âme une bouteille à la mer du silence. Ici le cri d'un poète ivre de naufrage. Mon âme une bouteille à la mer du silence. Ici le cri d'un poète ivre de naufrage.